Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous retrouvons nos nouvelles du ciel avec Denis. Bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Gisèle.
On va changer de planète aujourd'hui, on va se promener dans notre ciel. On va parler plus de Neptune, on survolera les éphémérides et puis on parlera un petit peu de tout ce qui se passe au balcon des étoiles à la trappe. Neptune, planète ou étoile?
Eh bien, planète. Une planète, hein, ce n'est pas un corps qui vit par sa propre lumière. Hein, ça ne fait que réfléchir la lumière d'une étoile. Et cette étoile, c'est le Soleil.
Qu'est-ce que Neptune ?
C'est une planète, oui. Hein, comme on le disait. S'il faut remonter à la mythologie romaine, Neptune, c'est le dieu de la mer, de l'océan, des tempêtes. Et quand on regarde les propriétés physiques de Neptune, hein, notamment donc, sa couleur, oui. Hein, cette couleur qui est aigue-marine, hein, c'est d'une splendeur, hein, c'est d'une beauté, hein, c'est une planète jumelle d'Uranus. Là. Donc là, on est vraiment, je ne vais pas dire aux confins du système solaire, mais on est quand même à 4,5 milliards de kilomètres, ce qui correspond à 30 unités astronomiques. Mais comme vous le savez, Gisèle, une unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil, oui. 30 fois plus éloignée.
D'accord. Voilà. Elle est faite de quoi, Neptune ?
Neptune, c'est une géante de glace, hein, c'est une géante gazeuse, hein. Comme Jupiter, Saturne, Uranus, ça contient du gaz, essentiellement donc de l'hydrogène, de l'hélium. Hein. Mais on trouve également d'autres gaz comme de l'ammoniac, du méthane. Et c'est le méthane, entre autres, hein, qui donne cette couleur caractéristique. Parce que le méthane va filtrer en fait les rayonnements provenant donc du soleil et sélectionnera la couleur rouge du spectre et laissera passer uniquement le bleu. Mmh. Donc c'est pour ça que c'est une planète bleue comme cette pierre précieuse qui est l'aigue marine.
D'accord. Bon, il y a des gaz, vous l'avez dit, mais après le noyau, est-ce qu'il y a un noyau dur ? Est-ce qu'il y a c'est de la roche ? C'est de la
Alors,
terre ?
D'après les modèles théoriques et des données qui nous ont fournis, on peut penser qu'il y a en effet un noyau constitué de silicate, de nickel, de fer. Et ce qu'il y a de particulièrement fascinant, c'est qu'on pense, vu les conditions de température qui y règnent, hein, qui sont relativement élevées et de pression, eh bien, on obtiendra en fait des variétés allotropiques du carbone, c'est-à-dire du diamant. Hein, parce que comme vous le savez, le diamant, en fait, c'est du carbone. Hein, c'est l'élément chimique carbone qui, sous certaines conditions de pression, hein, relativement importantes et de température, il y a une réorganisation de la matière et on obtient un état cristallin. Et on pense qu'il y aurait une espèce d'océan ou de couche en fait de diamants qui serait située entre le noyau et les couches supérieures de Neptune. Alors c'est une planète gazeuse, hein. Il n'y a pas de couche, il n'y a pas de strate au niveau de son atmosphère. Hein. C'est une planète qui est entièrement gazeuse, oui. À part des zones qui sont beaucoup plus en profondeur au niveau du noyau, où là, on a des conditions de pression et de température très, très singulières.
Oui. Est-ce que dans le temps, avec du temps, est-ce que cette planète pourrait être habitable ?
Non, pas du tout. Là, je ne pense pas que ça soit possible. Hein. Déjà, il faut quand même pénétrer dans l'atmosphère neptunienne. Hein. Mm-hmm. Et là, on rentrerait dans des couches gazeuses importantes. Hein. Ouais. Ce n'est pas du tout une planète tellurique comme Mercure, Vénus, la Terre ou Mars. Là, on s'enfoncerait vraiment dans les couches gazeuses.
D'accord. Ouais. Elle est plus grosse, plus petite que la Terre, pour nous donner une idée ?
C'est une planète qui est à peu près, dont le diamètre serait deux fois celui de la Terre.
Ah oui,
et ça serait la même chose donc avec Uranus, sachant qu'Uranus est légèrement un peu plus grande.
Mm-hmm.
Donc voilà, oui. deux fois le diamètre de la Terre, à peu près.
Comment elle a été découverte, cette Neptune ?
Oh là là, c'est une question très pertinente. Eh bien, elle n'a pas été découverte par le biais de l'observation.
Ah bon ?
Elle a été découverte par le biais des mathématiques, des calculs mathématiques. Vous avez d'un côté les Anglais, de l'autre côté les Français, hein, qui ont essayé de tirer la couverture, je dirais, à soi. Et finalement, eh bien, ce sont les Français qui ont gagné, on va dire les Français et les Allemands. Au départ, il faut remonter au début du 19e siècle, hein, autour de 1800 à peu près. Et là, donc, il y avait un astronome qui s'appelait Alexis Bouvard. Alors, ce n'est pas Philippe, hein, hein, c'est Alexis Bouvard, pour ne pas se tromper, qui a constaté que, d'après les calculs qu'il avait effectués, et par rapport aux observations de la planète Uranus, hein, mm-hmm. qui est située entre Saturne et Neptune, il a constaté que cette planète Uranus avait des anomalies orbitales liées à la gravitation universelle, hein, cette fameuse loi qui régit le mouvement des corps planétaires, entre autres, hein, autour du Soleil. Et il a constaté qu'il y avait des anomalies. Je répète quand même que Uranus, c'est une planète qui a été découverte en 1781. Ça va faire à peu près, grosso modo, 20 ans plus tard, que Alexis Bouvard s'est penché sur le cas d'Uranus. Il a constaté qu'Uranus présentait des anomalies orbitales, hein, comme je l'expliquais. Ces anomalies, ça aurait pu être lié à la présence d'un gros satellite qui graviterait autour d'Uranus. Mais en observant Uranus, on n'a jamais vu ce fameux satellite qui graviterait autour. Alors ça aurait pu être le passage d'une comète à proximité. Mais une comète, ça transite, ça traverse le système solaire. Hein. Ça ne reste pas, je dirais, dans la région, ça ne tourne pas autour d'Uranus. Donc ces anomalies auraient été, je dirais, temporaires. Mais c'est sur le temps... Hein, sur ce plusieurs mois, voire plusieurs années d'observation, qu'on a constaté qu'il y avait des problèmes au niveau du déplacement d'Uranus autour du Soleil. Bien. Ceci ne pouvait être expliqué que par la présence d'un objet relativement massif. C'est le cas de Neptune, hein, qui est quand même une planète dont la masse fait 17 fois celle de la Terre. Hein. Donc c'est quand même un objet assez imposant et qui a une masse quand même relativement importante. Par contre, le souci, c'est qu'on n'arrivait pas à détecter la présence, justement, de Neptune. Parallèlement à ça, il y a deux autres astronomes, un français et un britannique. On va commencer par le britannique, il s'agit de John Adams, qui, en 1843, hein, il a fait des calculs également, et il a détecté la présence, en effet, d'un corps mystérieux. Il s'agissait en fait de la huitième planète. Hein. Il y a Urbain Le Verrier également qui faisait aussi des calculs.
Mais ça, c'est le français.
Ouais, c'est le français, exactement. Alors, il s'avère que Urbain Le Verrier avait effectué des calculs beaucoup plus précis. Hein. Et là, il a donc fait appel à un de ses collègues allemands qui s'appelait Johann Gall, qui a orienté son télescope vers de la région qui avait été déterminée par Urbain Le Verrier. Et là, il a découvert cette fameuse planète Neptune. Et ceci en 1846.
Donc, voilà. Mathématiques puis lunettes.
Voilà, mathématiques et lunettes. Hein. C'est-à-dire que grâce au concours de cet astronome allemand, hein, qui avait son observatoire à Berlin, eh bien, il a pu donc détecter la présence de cette fameuse planète avec un télescope qui faisait 23 cm de diamètre.
Hein. Ah oui.
Sachant qu'à la trappe, on a des télescopes dont le diamètre est quand même beaucoup plus important. Et vous savez même, c'est que Neptune est visible avec une paire de jumelles, hein, surtout en ce moment.
Hein,
parce qu'elle présente un éclat qui permet d'être détectable, justement, avec une simple paire de jumelles.
La nuit, le matin ?
La nuit, bien entendu. Hein,
oui, non, mais
nuit,
je veux dire, à la tombée du jour, le matin ?
Ça dépend, hein, parce que vous savez que la Terre tourne sur elle-même, elle se déplace sur son orbite.
À partir de quand, alors ?
En fait, on peut la voir, grosso modo, en milieu de nuit.
Hein, d'accord, voilà, très bien. Mais... Est-ce qu'elle possède des lunes, cette Neptune ?
Oui, tout à fait. Elle possède des lunes. À peu près une quinzaine de satellites ont été détectés.
C'est des noyaux durs, c'est
alors c'est des noyaux durs, solides, hein, qui gravitent donc autour de Neptune. Et il y en a même un qui s'appelle Thalassa. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose de Thalassa, Gisèle ?
Ben, il y a une émission qui s'appelait Thalassa.
Voilà, il y avait une émission qui était animée par Georges Pernoud.
Oui, hein,
vous en souvenez ?
Oui.
Et c'est un magazine qui est axé sur, ben sur la mer. Ça fait bien le lien justement avec Neptune.
Tout à fait. Bon, puisqu'il y a beaucoup de lunes à Neptune, est-ce que Neptune tourne sur elle-même et est-ce qu'elle pourrait en avaler ?
Avaler, non, hein, parce que... Bon,
comme il y a des gaz, elle pourrait très bien les aspirer.
Oui, tout à fait, mais bon, en fait, bon, c'est vrai qu'à une certaine époque, lors de la période de la formation du système solaire, Neptune aurait pu très bien absorber tout à fait des corps mineurs, tout à fait. Mais bon, les satellites, les lunes qui, à l'heure actuelle, ont une masse suffisante et une distance suffisante pour que ces satellites puissent graviter donc autour de Neptune sans se faire absorber. Mm-hmm. Mais c'est vrai que durant la formation du système solaire, il y a eu une capture en fait de ces fameux cailloux qui ont donné naissance donc à ces fameuses lunes.
Puisque Neptune est formé de beaucoup de gaz, il ne peut pas y avoir des cratères comme par exemple...
Ah non, il n'y aura pas de cratères, hein, parce que c'est quand même une planète gazeuse.
Et voilà, c'est ça. Oui.
Par contre, à l'époque de la formation du système solaire, il y a eu très certainement des volcans qui étaient en activité à la surface de certains satellites. Parce qu'on ne trouve pas de cratères. Hein. Les cratères ne sont pas dominants sur ce type de satellite.
Mm-hmm. On pourrait aller sur Neptune peut-être, puisqu'il y a des diamants, on pourrait peut-être aller remplir nos coffres. Est-ce que ça serait possible ou pas ? Ben, écoutez...
ça paraît être un petit peu compliqué. Hein.
Oui.
Qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs sondes spatiales hein, qui sont parties dans le système solaire, notamment Voyager 2, hein, Voyager 2 qui a été envoyé en 1977 et qui est allé photographier cette chère planète Neptune. Et ça lui a demandé grosso modo 13 années de voyage pour y arriver.
Oui, 13 années plus le travail, il faut aller de bonne batterie.
Oui, tout à fait. D'autant plus que bon, le Neptune a une révolution autour du Soleil de 165 années. Hein. 165 années, c'est une planète qui tourne sur elle-même en 16 heures. Et encore, les vitesses sont très variables. On parle de vitesse différentielle parce qu'on a affaire non pas à une masse solide, mais à une masse gazeuse. Donc, il y a un déplacement variable selon des vitesses donc différentes selon les latitudes.
Mmh. Neptune n'étant que du gaz, il n'y a pas de cratère, elle a des lunes, on ne peut pas y aller. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il faisait hyper chaud.
Non, plutôt hyper froid. Alors, hyper chaud quand on se rapproche du centre. Hein.
Ah, voilà.
Mais au niveau des couches supérieures, on arrive à moins de 200 degrés. Hein.
Alors,
parce que c'est quand même une planète qui est, comme je le disais tout à l'heure, située à 30 unités astronomiques du Soleil et qui reçoit 900 fois moins d'énergie solaire que la Terre.
Ah oui.
On est vraiment à des distances extrêmement éloignées.
Donc le noyau est très, très chaud,
oui.
Et l'extérieur très froid.
Voilà, tout à fait. Oui.
D'accord. Justement, à la jointure des deux températures, il n'y a rien qui se passe ?
Mais là, on est situé justement à des couches qui sont très profondes. Hein, et à ce niveau-là, on serait dans un milieu où il y aurait des déséquilibres entre le gaz, les liquides, voire des particules solides, tout à fait.
D'accord. Hein. Donc, on ne peut pas y habiter ?
Non, non, là, il n'y a pas de chance. Hein. Il y a des cyclones, hein. Il y a des cyclones qui sont relativement importants, des tempêtes, hein. Des tempêtes dont la vitesse peut atteindre les 2400 km par heure. Hein. Je ne sais pas si vous réalisez,
ça
Gisèle.
Ça décoiffe un peu.
2400 km par heure,
c'est énorme.
C'est quand même relativement important. Hein. Il y a une grosse tache hein, qu'on retrouve aussi sur Jupiter, hein. La fameuse tache rouge. Hein. Mais là, bon, elle n'est pas rouge, mais c'est quand même un cyclone qui fait en diamètre à peu près 13 000 km. Hein. C'est assez surprenant.
Oui, en effet. Est-ce qu'il y aurait, sur toutes ces planètes, sur tout cet univers, ce ciel, est-ce qu'il y aurait une planète où on pourrait vivre, à part la Terre ?
Ça, c'est une question vraiment très, très compliquée, Gisèle, hein, parce que vous savez que la vie repose des fois sur peu de choses. Hein, Donc, il faut quand même qu'il y ait toutes les conditions chimiques, thermiques, pour que la vie, justement, puisse se développer. Quoi.
Mm-hmm.
Donc, on espère aller conquérir la planète Mars.
C'est pas
une mince affaire.
C'est pas de même. On en sait un petit peu plus sur Neptune maintenant. Est-ce qu'on passe aux éphémérides ?
Oui, tout à fait.
Allez, qu'est-ce qu'il y a ce mois d'octobre à voir de par les Pléiades à la trappe ?
Il y aura une série de conjonctions. Hein. Je vous rappelle que la conjonction, c'est un rapprochement de corps célestes. Le 3 octobre, on aura affaire à un rapprochement entre la planète Vénus et Spica. Pour ceux qui veulent voir enfin la fameuse étoile du berger, hein, qui n'est autre que la planète Vénus, eh bien vous pourrez la voir juste après le coucher du soleil.
Ah, yes.
Il faudra être particulièrement attentif. Hein. C'est une planète qui a l'aspect d'une étoile, hein, qui est particulièrement brillante, et vous pourrez la remarquer donc juste après le coucher du soleil.
Mmh. Et là, on va la voir tout l'hiver après.
Oui.
Début janvier,
oui,
au moins.
Au moins ça. Hein. Mmh. Donc là, le 3 octobre, il y aura un rapprochement entre Vénus et l'étoile Spica de la constellation de la Vierge.
Hein. Oui.
Spica, c'est l'étoile la plus brillante de cette fameuse constellation. Le 4 octobre, là, il y aura un rapprochement entre la Lune et une nébuleuse qu'on appelle de la Lagune, hein, qui est classée M8. M8, c'est le huitième objet qui a été classé par Charles Messier hein, autour des 1744, hein, qui avait dressé un catalogue des objets du ciel profond. On retrouve 110 objets. Hein. C'est un catalogue qui est international. Hein.
D'accord.
Et puis le 5 octobre, là, il y aura un rapprochement entre la Lune et Saturne. Hein, c'est-à-dire qu'à proximité de la Lune, eh bien, il y aura Saturne.
Ah, ensuite, voilà, à proximité, parce qu'en fait, c'est quand même très éloigné l'un de l'autre.
Ah oui, c'est-à-dire que l'angle visuel qui sépare en fait les deux astres sera relativement petit.
Des
étoiles filantes. Alors, entre le 9 et le 24 octobre, il y a plein d'étoiles filantes qui proviennent de différentes directions du ciel. Vous aurez les draconides, les taurides, les origides, les géminides, les orionides, les léominorides. Tout ça, ce sont des noms d'étoiles filantes qui, comme les draconides, qui semblent provenir de la constellation du dragon. Les taurides semblent provenir de la constellation du taureau. Les géminides, de la constellation des gémeaux, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, le 17 octobre, là, il y aura une conjonction entre la Lune et Aldébaran. Hein. Alors, Aldébaran, c'est une étoile géante rouge hein, qui est particulièrement lumineuse, hein, qui est située dans la constellation du Taureau. Le 28 octobre, là, il y aura Uranus qui sera en opposition, c'est-à-dire qu'Uranus sera à la distance la plus proche de la Terre. Mais ça fait quand même à peu près 3 milliards de kilomètres.
Oui.
Ensuite, le 30 octobre, il y aura Mercure et Vénus qui seront en conjonction juste après le coucher du Soleil. Donc
oui.
Là, vous verrez deux étoiles, une qui sera très très brillante, l'autre moins. Et là, vous pourrez bien distinguer Vénus de Mercure.
Quelles activités pour ce mois d'octobre au Balcon des Étoiles ?
Deux conférences. Le 4 octobre, il y aura une conférence sur la Lune qui sera donnée par Gérard Le Troblon à 21h. Et le 25 octobre, une conférence qui sera donnée par le directeur du GEPAN. Alors, je vous rappelle que le GEPAN, c'est le groupe d'études des phénomènes atmosphériques. Hein. C'est tous les objets non identifiés. C'est le GEPAN qui s'occupe de ça. Hein. Et ce sera une conférence donnée par Jean-Paul Agut, qui est le directeur donc, du GEPAN, qui est une unité qui est rattachée au CNES à Toulouse.
Est-ce qu'il arrive, comme vous qui êtes astronome, est-ce qu'il arrive de voir justement un objet non identifié dans le ciel avec vos lunettes télescope, pardon.
Bon, on voit en effet à travers l'oculaire des objets transiter, mais c'est souvent soit des étoiles filantes, soit des satellites hein, qui transitent. Ça nous arrive de temps en temps de recevoir des appels à l'observatoire de La Trappe, par exemple. Hier, il y a eu une personne qui a téléphoné en nous signalant qu'elle avait observé un objet très particulier devant la Lune et qui ne bougeait pas. Bon. Après, c'est chacun qui fait, je dirais, sa propre analyse par rapport à ça. Ce n'est pas du tout évident de répondre à cette question.
D'accord.
On y croit ou on n'y croit pas. Voilà.
Oui, mais je fais un croire ou pas croire, mais je veux dire, si on voit quelque chose dans le ciel, et il y a eu des témoignages qui ont dit « Ah, mais on a vu ça, plusieurs personnes l'ont vu, c'est pas quand même quelqu'un qui hallucine et c'est pas... » L'hallucination
oui,
ne
tout
se
à fait.
Transmet pas
après,
des uns aux autres, quoi.
Oui, mais après, c'est une question d'interprétation. Hein. On peut avoir des effets de l'heure... et qui nous entraîne dans un raisonnement qui n'est pas du tout rationnel, des fois. Hein.
D'accord. Bon. Donc, on n'en saura pas plus, finalement, sur ces objets volants non identifiés. Neptune, on le rappelle, c'est une belle découverte, d'abord mathématique, ensuite
oui.
Avec des lunettes.
Officiellement, donc, qui a été découverte par un Français.
Oui.
Sur le plan de vue mathématique et qui a été observé donc, par un Allemand parce qu'il a fallu, bien sûr, confirmer l'existence
oui.
de cette planète par le biais de l'observation.
Mm-hmm.
Voilà. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'astronomes motivés qui n'étaient pas convaincus de l'existence de cette huitième planète du système solaire.
Oui, en effet. Je peux le comprendre parce que, bon, voilà, vu...
Urbain Le Verrier se sentait un petit peu seul quand même à cette époque-là.
Je veux bien le croire. Heureusement qu'il avait son ami allemand qui l'a confirmé. Donc on sait qu'elle a des lunes.
Oui.
C'est beaucoup de gaz, il fait très froid à l'extérieur, très chaud à l'intérieur. On ne pourra donc pas aller chercher les diamants qu'elle renferme. Et on sait qu'il faudrait beaucoup de temps pour y aller si on voulait aller la voir. Mais ce n'est pas la peine d'y aller, il fait trop froid pour y résister. Est-ce qu'il y a des hivers et des étés sur Neptune ?
Oui, tout à fait, il y a des saisons. Hein, parce que quand vous avez une planète qui a son axe de rotation qui est incliné sur son plan orbital, eh bien, on a des saisons. Alors, l'axe incliné de la Terre fait 23 degrés, celui de Neptune fait 30 degrés. Donc, ça veut dire qu'on a quatre saisons également, mais ces quatre saisons sont particulièrement longues, hein, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, la révolution de Neptune autour du Soleil, c'est 165 années. Donc, si vous divisez par quatre, vous voyez que les saisons sont particulièrement longues.
Longues. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne pourrait pas aller y vivre. Denis, on arrive au terme de cette émission. On en sait beaucoup plus maintenant. Et puis, on se retrouvera au mois de novembre pour, je l'espère, peut-être une autre découverte où on verra ce que vous nous proposez.
Eh bien, avec grand plaisir. Merci.
Merci beaucoup. À bientôt.
Au revoir.